Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
L'Académie de Grenoble a lancé deux dispositifs spécifiques d'accueil pour les élèves intellectuellement précoces. L'un d'eux est à l'île d'Abo depuis septembre. En effet, la loi de 2013 de refondation de l'école demande aux académies un enseignement adapté aux besoins de ces enfants. Étienne Basquin, vous êtes professeur au Collège Robert Doisneau à l'île d'Abo. Bonjour.
Bonjour.
On confond déjà un petit peu souvent enfants précoces, enfants surdoués. On a un peu plein de termes finalement pour désigner ces enfants-là. Il y a quand même quelques nuances. Quelles sont un peu les différences?
Tout à fait. Après, ça va dépendre des pays et des époques, la façon dont on va appeler ce type d'élève. Donc les termes qui sont actuellement retenus, ça va être enfant intellectuellement précoce ou enfant à haut potentiel intellectuel. Et alors, ça va être souvent confondu avec le terme de surdoué, effectivement. Ce terme de surdoué, il va être trompeur parce que un enfant qui est intellectuellement précoce va pas forcément être intellectuellement précoce partout. Et à ce moment-là, on va s'étonner de ce qu'il va pouvoir faire parce que ça correspondra pas à l'image qu'on se fait du surdoué. À ce moment-là, sur un enfant qui peut être un peu fragile, ça va avoir une répercussion très négative que de le considérer comme surdoué. D'où l'appellation de intellectuellement précoce ou à haut potentiel, parce que justement, il faut que ce potentiel soit capable de s'exprimer.
Pourquoi est-ce qu'un enfant précoce aurait besoin d'enseignement adapté? Et tous n'en ont pas forcément besoin d'ailleurs.
Tous n'ont pas forcément besoin d'un enseignement adapté, parce qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ça ne se voit pas du tout. On a un enfant qui est brillant, il a des capacités, il sait les exprimer, tout se passe bien. Ça va être beaucoup le cas des jeunes filles. Nous, les élèves qu'on reçoit essentiellement, et tous pour cette année à l'île d'Abo, ça va être que des garçons. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir plus d'agitation, ils vont avoir plus de troubles associés, en tout cas visibles dès l'adolescence, associés à ce haut potentiel. À ce moment-là, ça va pouvoir être détecté. Pour les filles, ça peut se détecter plus tard, et là, ça va poser des soucis.
Il y a vraiment cette différenciation, finalement, fille-garçon, c'est quelque chose qui est clair pour vous, notamment, qui êtes professeur, c'est quelque chose que vous voyez, en tout cas, au quotidien?
Alors, c'est quelque chose qu'on va voir dans les statistiques, cette différenciation, tout simplement parce que les filles vont être plus adaptées socialement que les garçons. C'est-à-dire, une petite fille, elle est bien sage, elle est dans le moule de ce qu'on attend d'un élève, elle sait ce qu'on attend d'un élève. Alors, si elle a terminé tous ses exercices et qu'elle s'embête en classe, elle va pas forcément se mettre à faire l'andouille. À ce moment-là, on voit qu'un enseignant va voir que la jeune fille s'embête un petit peu, et puis ce sera tout. Alors qu'un garçon intellectuellement précoce, il va davantage s'exprimer. Et là, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de faire n'importe quoi alors qu'il a terminé tout ce qu'on lui a demandé, alors qu'il a tout compris? Et ça va être un élément de détection de ce genre d'élève.
Généralement, c'est les parents qui savent déjà que leur enfant est précoce, c'est les professeurs qui tirent un peu la sonnette d'alarme vis-à-vis des parents. Comment ça se passe un petit peu cette détection-là?
Alors, je ne suis pas spécialiste de la détection, puisque moi je les prends en charge après qu'ils aient été détectés. Il va y avoir là aussi plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est les parents qui s'étonnent, puisque ça commence un peu à être connu comme particularité. Donc il y a des parents qui vont demander eux-mêmes à ce que leur enfant soit testé en termes de précocité intellectuelle. Et le deuxième levier pour la détection, ce sont les instituteurs, les enseignants du primaire, qui eux vont pouvoir alerter les parents sur les particularités des élèves. Ils ne peuvent avoir l'un et l'autre que des doutes, et ensuite ce sera un test bien précis qui va avérer.
Les académies sont obligées donc de fournir un enseignement adapté. Grenoble a décidé d'intégrer ses élèves à haut potentiel dans les classes. En quoi consiste ce dispositif concrètement? Comment ça se passe?
Alors très concrètement, un dispositif d'intégration, c'est ce qu'on appelle un dispositif d'inclusion. Donc dans une classe, il va y avoir un nombre limité d'élèves à haut potentiel. L'objectif, c'est d'arriver à les scolariser à la manière de tous les élèves et avec tous les élèves. Les adaptations qui vont être mises en place pour ces élèves, elles vont concerner l'ensemble de la classe et elles vont être accessibles à tous les élèves de la classe. Ça, c'est le principe de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on va s'adapter, mais on fournit la même chose pour tout le monde. On fournit les mêmes enseignements pour tout le monde. Quelques exemples, les élèves à haut potentiel ont une particularité de pouvoir travailler plus vite que certains autres. On peut commencer par leur fournir des tâches complexes, des travaux en tâches complexes. C'est pas plus compliqué. Si on se donne une tâche à faire, exemple aller d'un point A à un point B, il va y avoir une tâche classique qui va être on est au point A, tu commences par aller à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, hop, t'es arrivé au point B. Et la tâche complexe, ça va être, tiens, voilà une carte, une boussole, t'es en A, tu vas en B. C'est-à-dire, ça va prendre plus d'autonomie, ça va prendre plus de réflexion. Et il se trouve que, justement, un élève qui a des facilités à ce niveau-là, va être plus motivé scolairement par ce genre d'exercice que par la succession simple des tâches effectuées. Ensuite, on va pouvoir leur proposer des projets personnalisés. Ces projets personnalisés, ça va être sur une passion d'un des élèves, sur un thème qu'ils ont choisi. Ça va leur permettre de s'exprimer, notamment sur ce qu'ils souhaitent apporter à la classe. On va prendre un exemple. Si un élève aime la mythologie, on peut lui proposer de réaliser une BD. Cette BD, il va la faire pendant le temps des cours, il va la faire à côté. Si il a complètement acquis tout ce qui est dans le chapitre de maths, ou on va dire à 80%, ce qui est tout à fait acceptable, on lui dit « Ok, là, tu peux t'arrêter pour l'instant de faire des maths, tu peux aller dessiner, rédiger ta BD, et au terme de un mois, deux mois, à peu près, on va dire un trimestre maximum, cette BD va être proposée, présentée à l'ensemble de la classe. Ça permet à la fois d'occuper un élève qui serait en demande d'occupation, de lutter contre l'ennui en classe, et ensuite de le valoriser par rapport aux autres socialement.
Et quand on est enseignant, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Parce que finalement, ça devient presque un peu compliqué, comme vous disiez que tous les élèves peuvent participer. Chacun peut se dire que moi je veux faire une BD pendant que l'autre est en train de finir son exercice. Ça vient pas un peu au cauchemar par moment?
Très concrètement, ça reste du domaine ponctuel. C'est aussi une quantité d'élèves qu'on a dans la classe qui est limitée. Et en fait, ce type de choses, ça va concerner deux profils d'élèves. Les profils d'élèves à haut potentiel et les élèves en grande difficulté. Un élève qui est en grande difficulté, lui aussi, il a un sujet qui l'intéresse, on va lui donner l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet, de faire des recherches. Il va naturellement travailler des compétences qui sont scolaires en travaillant sur ce sujet. Et à la fin, il sera lui aussi valorisé par rapport à l'ensemble de la classe. Ce qui fait que c'est des choses qui vont me permettre de donner, de travailler avec les deux extrêmes. Et le cas où ça se passerait pour toute la classe, finalement, dans la pratique, ne se présente pas.
Et on arrive aujourd'hui à faire du cas par cas comme ça dans des classes qu'on sait de plus en plus surpeuplées. Est-ce que les classes qui accueillent ce genre d'élèves à haut potentiel sont peut-être réduites, ont peut-être moins d'effectifs?
On a un effectif de 25 élèves pour des sixièmes, ce qui est classique pour le collège dans lequel on se trouve. Donc pas forcément d'adaptation à ce niveau-là. C'est un effectif qui nous permet de travailler, qui nous permet d'avoir un suivi assez personnalisé des élèves par rapport à ce qui peut être les effectifs des classes dans les années suivantes.
Comment réagissent aussi peut-être les autres élèves maintenant qu'ils apprennent peut-être davantage à découvrir leurs camarades aussi? Comment ça se passe? Il y a peut-être plus d'interactions les uns avec les autres?
Il y a des interactions les uns avec les autres, on va dire, comme dans toute classe. Sur cette classe en particulier, on a fait un travail en amont, qui est un travail d'éducation à la différence. C'est une séance où on va mobiliser l'infirmière scolaire, où on va mobiliser la prof de musique, moi-même en tant que prof principal. Et sur cette séance, on va essayer de donner aux élèves différentes impressions et les amener à réfléchir. Qu'est-ce que ça ferait si on était tous pareils sur la planète? La réponse est que on serait bien embêté. Qu'est-ce que ça ferait s'il n'y avait pas de différence entre nous? C'est pareil, on serait bien embêté. Et finalement, on arrive à la nécessité de reconnaître les différences élève par élève. Et qu'est-ce que ça fait si on a un élève, un cas qu'on a classiquement, qui est dyslexique et qu'on n'adapte pas l'enseignement pour cet élève ? Finalement, c'est cet élève qui est défavorisé par rapport aux autres. Alors la conclusion de cette séance d'éducation à la différence, c'est pour les élèves que ne pas faire d'adaptation, c'est là qu'il y aurait une injustice. Et donc ça se passe plutôt bien avec les autres élèves.
Est-ce que certains ont découvert peut-être aussi le concept de précocité ? J'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui est simple pour tout le monde.
Complètement. Et on a eu à cadrer en fait l'amalgame précocité-surdoué ou l'amalgame précocité-intello sur pas mal de cas. Là, ça fait un moment qu'on n'en a pas trop entendu parler de ce genre de choses. Alors c'est pas trop mal.
Les professeurs ont été bien sûr formés aussi en amont.
Les professeurs ont été formés 2 jours.
En quoi ça consistait ? C'était l'explication de ce qu'était que la précocité, de comment gérer un peu ses enfants ?
Alors c'était l'explication de ce que c'est la précocité, un premier temps, l'explication de comment gérer ses enfants, et ensuite un établissement qui avait été pilote dans la démarche d'accueil de ses élèves à haut potentiel nous a donné les pistes pour justement accueillir ces élèves avec celles que l'on vient d'évoquer. Et ce qui était important là-dedans, c'était quand même de pouvoir avoir cette compréhension de ce que c'est que le haut potentiel pour les élèves et de ce que ça implique scolairement ou de ce que ça n'implique pas. Notamment, un élève à haut potentiel, il va pas être bon partout. Et il faut le savoir. Ça va être important de se dire, bon ben, c'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on peut pas se planter. C'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, on n'a pas le droit de faire des bêtises quand on est élève. Ça, je pense que c'est hyper important aussi dans la compréhension de l'ensemble. D'où encore la nécessité de ne pas faire d'amalgame avec ce qui pouvait se dire auparavant.
Alors vous le disiez, vous êtes professeur principal donc de cette classe. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous investir là-dedans ?
Eh bien parce que s'investir, c'est sur un sujet qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. Ensuite, j'aime bien l'idée du fonctionnement au niveau du cerveau. Puis après, adapter la pédagogie, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est un ensemble de choses. Ensuite, on avait été sollicité par l'inspection académique pour mettre en place ceci. Donc, ça s'est fait comme ça.
Et les élèves ont été en fait sélectionnés à la classe précédente, c'est ça ? Pour savoir un petit peu qui allait intégrer cette classe-là. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a 5 élèves, c'est ça, à haut potentiel, donc
tout à fait.
À l'île d'Abo. Comment est-ce qu'ils ont été trouvés, presque, j'ai envie de dire ?
Alors, les élèves à haut potentiel, ils sont détectés en primaire. Et l'idée, c'est pour si on a un potentiel qui est avéré, de pouvoir les orienter vers cette structure. C'est-à-dire la publicité du dispositif, elle se fait au niveau des enseignants du primaire qui vont proposer aux parents de candidater pour venir au collège, de déposer un dossier avec l'ensemble des tests attestant du haut potentiel. Et à partir de là, il va y avoir un équilibre sur le rapport coût-bénéfice de l'intégration du dispositif. Simplement, si un élève vient de la Verpillière et que sa maman peut le déposer tous les jours au collège, ça paraît simple, il n'y a pas de souci, il va retirer un bénéfice du dispositif. Si l'élève en question habite à 60 km et qu'il doit prendre un train et qu'il doit prendre un bus et qu'il doit se lever à 5h du matin, à ce moment-là, le coût va être bien supérieur au bénéfice et il sera pas mieux dans le dispositif à haut potentiel que dans un autre établissement.
Aujourd'hui, ce dispositif n'existe que pour la classe de 6e. Comment ça va se passer finalement pour ces enfants qui auront peut-être eu une bonne 6e mais qui devront rentrer dans la classe de 5e sans ce dispositif ?
Oh, mais on va pas les lâcher comme ça, hein. Donc on va les garder jusqu'en 5e avec des enseignements adaptés. Les enseignements dont ils auront l'habitude. L'idée, c'est que 6e, 5e, c'est une période qui est charnière dans la scolarité d'un élève, en particulier dans la scolarité de ses élèves. Donc on va travailler sur 6e, 5e, leurs compétences scolaires, leurs compétences sociales. C'est un dispositif d'inclusion. À terme, la finalité, ça va être de les remettre dans un circuit classique, c'est-à-dire d'intégrer une quatrième, une troisième, une suite de scolarité trois classiques, en ayant reçu la réconciliation avec l'école s'il y avait besoin de se réconcilier, ou en ayant reçu les compétences sociales qui leur permettront de s'intégrer dans les classes supérieures.
Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est appliqué à tous les cours, hein, que ce soit maths, français, SVT, sport. Tous les professeurs ont été mis au courant, on va dire, et les élèves peuvent vraiment se sentir libres dans tous les cours.
Tous les professeurs de la classe ont été formés là-dessus, et tous les professeurs de la classe ont le regard adapté et ont, dans la mesure du possible, les adaptations pédagogiques pour ces élèves. C'est un dispositif qui va d'autant mieux marcher qu'il impliquera l'ensemble des enseignants.
Alors on le disait, il est rentré en vigueur en septembre à l'île d'Abo. Ça fait trois petits mois maintenant que le dispositif est en place. Est-ce que vous en voyez déjà les fruits ?
Oui, et on ne va pas rentrer dans les détails pour des raisons de confidentialité avec les élèves. En revanche, on peut décrire des améliorations au niveau justement de ce qui m'était cher tout à l'heure, les compétences sociales. Pour certains élèves qui sont partis avec des difficultés et qu'on a vu progresser sur les quelques mois où ils étaient là. On a vu d'autres élèves bien s'intégrer tout à fait normalement à l'intérieur de la classe. Est-ce que c'est la faute du dispositif ? Je peux pas forcément le dire. En revanche, on ne sait pas non plus ce que ça aurait donné si ils avaient été dans une autre classe. Donc oui, on voit des résultats assez rapidement, et c'est justement là que c'est intéressant.
Merci beaucoup. Étienne Basquin rappelle donc que vous êtes professeur au collège Robert Doisneau à l'île d'Abo.
Merci à vous.